Il était une fois.
C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Yanis. Il est marié. Avec sa femme, ils ont un petit garçon âgé d'une dizaine d'années et ils habitent à la campagne dans un petit village. Yanis est paysan, mais il n'a pas de terre à cultiver, ni d'arbres fruitiers, ni de bêtes à élever. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille chez les autres, chez les fermiers de la région. Un jour, il va aider un voisin qui possède un champ de pommes de terre, il l'aide à ramasser les pommes de terre, et le soir, il rentre chez lui avec son salaire dans la main. 3 pommes de terre. Le lendemain, il va aider un fermier du coin qui possède un champ de blé, il l'aide à récolter le blé, et le soir, il rentre à la maison avec 2 épis de blé. Quand c'est la saison des olives, il se rend à l'oliveraie là-bas, il participe à la cueillette des fruits, et le soir, il rentre avec 1 poignée d'olives. C'est que Yanis est pauvre, dans une région à peine moins misérable que lui. Yanis est désespéré. Vivre comme ça, c'est pas possible. Un jour, il en parle à son épouse et il lui fait part de sa souffrance de ne pas réussir à nourrir sa petite famille. Sa femme lui répond « Oui, ben Yanis, c'est comme ça, que veux-tu ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Et Yanis lui répond qu'il a entendu parler d'une ville qui se situe dans un pays lointain où, paraît-il, on trouve du travail et qui est bien payé. Et il se dit que c'est peut-être sa chance de partir là-bas. Mais sa femme lui dit « Mais enfin, tu ne peux pas partir comme ça, Yanis. Qu'est-ce que nous deviendrons en ton absence ? Eh bien, là-bas, je trouverai du travail et je vous enverrai de l'argent. Mais je ne veux pas partir sans ton consentement. » Sa femme finit par céder. Elle lui fait promettre de ne pas les oublier et de revenir un jour. Alors Yanis serre sa femme contre son cœur. Il caresse la tête de leur petit garçon. Et il se met en route. Il marche, il marche, il marche. C'est un long voyage. Il traverse des forêts, il franchit des rivières, il gravit des montagnes, il descend des collines. Et puis l'espoir grandit dans son cœur. Il continue à marcher, à marcher, à marcher. Jusqu'au jour, enfin, il arrive devant la porte monumentale de cette fameuse grande ville. Il pénètre dans les faubourgs, il parcourt les rues, et il est très impressionné par toutes ces maisons serrées les unes contre les autres, et toutes ces têtes inconnues qu'il croise. Il salue les gens ne lui répondent même pas. Et à tous, il demande s'ils ont du travail pour lui. Mais les habitants lui répondent que non, ils n'ont pas besoin de lui. Alors il frappe à des portes, demandant « Est-ce que vous avez du travail pour moi ?» Mais partout, on lui répond que non, on n'a pas besoin de lui. Alors Yanis, après avoir parcouru des rues et des rues, des quartiers et des quartiers, se sent encore plus misérable que le jour où il a quitté son village. Tout seul au milieu de ses inconnus, il n'a plus rien dans les poches. Il est tenté de rentrer chez lui, mais la honte l'en empêche. Comment se présenter de nouveau devant sa femme ? Sans rien. Alors il tend la main. Il fait la manche dans la rue.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison.
Et voilà qu'un jour, un monsieur élégant l'aborde en lui demandant s'il a envie de travailler. Ce à quoi Yanis répond « Oui, bien entendu, moi j'aimerais travailler, mais j'ai pas trouvé de travail. Qu'est-ce que tu sais faire ? Ah bah je sais ramasser les pommes de terre, récolter le blé, cueillir les olives. » « Eh bien ça tombe bien, » lui dit le monsieur élégant, « parce que j'ai un jardin qui ne demande qu'à être cultivé. Et si je t'engageais comme jardinier ? Je veux bien, mais est-ce que vous allez me payer, monsieur, pour ce travail ? Oui, bien entendu, je vais te payer. » Et Yanis a suivi le monsieur, qui n'avait pas menti. Il avait en effet un très grand jardin autour de sa belle villa. Un jardin en friche. Alors Yanis a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Il a creusé la terre, planté des graines, arrosé. Et voilà que des légumes se sont mis à pousser dans une partie du jardin. Dans une autre, c'était des fleurs de toutes les couleurs. Dans une troisième partie, enfin, des arbres fruitiers se sont mis à pousser. Les saisons succédaient aux saisons. Les années passaient après les années. Et Yanis avait planté des pommes de terre. Et chaque fois qu'il les récoltait, il repensait à son petit village, à sa femme, avec une tendresse qui ne faisait que grandir. Et puis il a planté aussi des épis de blé qui se sont mis à pousser. Et là encore, il repensait à sa petite région lointaine là-bas, avec un amour infini. Et il a planté des oliviers aussi dans ce jardin. Et quand des beaux fruits noirs, des olives magnifiques se sont mises à apparaître aux branches de ces oliviers, ça lui rappelait les beaux yeux de son épouse. Yanis était très heureux chez cet homme riche. Souvent, ils avaient des discussions, les deux là. Et l'homme riche s'intéressait beaucoup à Yanis, le questionnait sur son passé, sur sa vie à la campagne. Et Yanis répondait avec sincérité. Tout allait très bien pour Yanis. Cependant, sa petite maison, son épouse lui manquaient. Et puis il y avait surtout un gros problème. Son maître, en réalité, ne le payait pas. Yanis n'osait pas trop aborder la question avec son maître. De temps en temps, il se risquait à une petite allusion, mais son maître semblait ne pas comprendre. Heureusement, de temps en temps, la femme du maître, la patronne, glissait discrètement quelques petites pièces de monnaie à son jardinier et Yanis s'empressait d'expédier cet argent au village, là-bas, à son épouse. Mais de vrai salaire, il n'en recevait pas.
J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu.
Et voilà que tant d'années sont passées que cela fait 10 ans maintenant que Yanis travaille chez cet homme. Et sa petite maison lui manque trop. Il se dit qu'il est temps maintenant pour lui de rentrer chez lui et avant cela de toucher la récompense de ses efforts. Alors il va trouver son maître, lui faisant part de son désir de retourner dans sa maison. Et il lui demande son salaire. Son maître le remercie pour tout le travail qu'il a effectué. Le félicite pour ce jardin magnifique qui est maintenant autour de sa maison et lui dit « Yanis, je vais te payer. Attends-moi un instant. » Son maître s'éclipse un instant et revient. Et il glisse 3 pièces d'or dans la main de Yanis. C'est la première fois que Yanis touche de l'or et qu'il a là dans la paume ce métal si précieux. Il trouve que 3 pièces, ce n'est pas grand-chose pour 10 années de labeur. Mais enfin, il se dit que ça doit être le prix. 3 pièces d'or. Il remercie son maître et lui dit au revoir et se dirige vers son village. À peine a-t-il fait 10 pas que son maître le rappelle. « Yanis, Yanis, reviens vers moi, s'il te plaît. » Yanis revient vers son maître. « Oui, maître. Rends-moi 1 des 3 pièces que je t'ai données et en échange, je te donnerai un bon conseil. » Yanis proteste, dit que 3 pièces, ce n'est déjà pas énorme, mais comment pourrait-il se dépouiller 1/3 de sa fortune ? Que dira-t-il à sa femme ? Mais son maître est inflexible. Il exige 1 pièce en échange d'un bon conseil. Yanis a pris l'habitude d'obéir pendant ces 10 années. Et il finit par rendre 1 des pièces à son maître, qui lui dit « Écoute-moi bien, Yanis. » Si ce n'est pas tes affaires, ne pose pas de questions. Au revoir, Yanis. Et Yanis repart en direction de son village, avec 2 pièces dans la main. À peine a-t-il fait 10 pas, puis 20 pas, que son maître le rappelle. Yanis, Yanis, reviens vers moi. Yanis revient. Son maître lui dit, donne-moi 1/2 pièce, et je te donnerai 1 2e bon conseil. Yanis commence à se lamenter. à pleurer, à s'agenouiller devant son maître. Il le supplie d'avoir pitié de lui. Mais son maître ne cède pas. Il tend la main, attendant la deuxième pièce, qui finit par venir, parce que Yanis la lâche. Et son maître lui dit, « Yanis, écoute mon deuxième conseil. Ne t'écarte jamais de la route où tu chemines. Allez, va-t'en, Yanis. Tu peux repartir. » Yanis salue le maître une troisième fois, se dirige vers son village, mais à peine a-t-il fait 30 pas que son maître le rappelle une troisième fois. « Yanis, Yanis, reviens !» Et Yanis, de mauvaise grâce, retourne vers son maître qui lui dit « Donne-moi ta troisième pièce et je te donnerai un troisième bon conseil. » Cette fois, Yanis est furieux. Il lève le poing, menace de frapper son maître à la figure. Il crie, il hurle. Mais son maître reste très calme et exige la troisième pièce. Alors Yanis finit par la lancer à son maître, qui lui dit « La colère du soir, garde-la pour le lendemain. Va, Yanis, je ne te rappellerai plus. » Et Yanis s'en va, les poches vides, mais le cœur plein d'une rage. Il marche, Yanis, dans l'autre sens. Et il se demande quelle histoire il va pouvoir raconter à sa femme en arrivant pour justifier qu'il a les poches encore plus vides que le jour où il l'avait quitté. À force de marcher, il arrive devant un arbre extraordinaire, un très grand arbre, sur lequel est juchée une créature étrange qui se livre à une activité encore plus étrange. C'est un géant qui est assis sur la plus grosse branche de ce platane. À côté de lui, le géant a un sac rempli de pièces d'or. Il y plonge la main, le géant en retire une pièce d'or qu'il lèche, puis qu'il colle à une branche de l'arbre. Et une fois ce geste accompli, il le refait. Il replonge la main dans le sac plein de pièces d'or, en tire une autre pièce qu'il lèche et qu'il colle à une autre branche de l'arbre. Et ainsi de suite, une troisième fois, une quatrième fois. Et Yanis assiste à cette scène, sidéré. Jamais il n'a vu autant de pièces d'or, jamais il n'a vu de géant, mais il ne comprend pas du tout pourquoi cette créature s'amuse à coller des pièces d'or aux branches de l'arbre. Alors il s'apprête à le questionner. Mais au moment où il va ouvrir la bouche pour interroger le géant, le souvenir du premier conseil de son maître lui revient en mémoire. « Si ce n'est pas tes affaires, ne pose pas de questions. » Alors il se ravise, se dit que finalement, si le géant aime bien s'amuser à coller des pièces d'or aux branches de l'arbre, eh bien, c'est son problème à lui. Mais personnellement, Yanis, ça ne le regarde pas, tout compte fait. Alors, il n'interroge pas le géant et continue son chemin. À peine a-t-il fait quelques pas qu'il entend une voix rocailleuse dans son dos qui lui dit « Dis donc, toi là-bas, pourquoi tu t'en vas ?» Yanis se retourne vers l'arbre et fait semblant de ne pas comprendre. « Monsieur, c'est à moi que vous parlez ?»«
Ouais, dis donc, ça fait des siècles que je suis là perché sur cet arbre en train de coller des pièces d'or aux branches. Et des centaines de voyageurs sont passés par là. Et tous, ils m'ont demandé « Mais pourquoi est-ce que tu colles des pièces d'or aux branches de l'arbre ?» Leur curiosité m'a tellement énervé que tous ces voyageurs... je les ai mangés. Mais toi... T'as été plus discret que les autres, alors pour t'en remercier, tiens, je te donne un sac rempli de pièces d'or. »
Et Yanis, sidéré, a vu un sac rempli de pièces d'or tomber à ses pieds. Il a pris les pièces, les a mises dans ses poches, a rempli ses poches jusqu'à ras-bord, s'est penché par-dessus le sac, il y avait encore des pièces dans le sac. Alors il en a mis dans ses chaussettes, dans ses chaussures, il a remercié le géant et il est reparti, le cœur léger, mais les pieds lourds, en se disant que si le premier conseil de son maître lui avait coûté une pièce d'or, il lui en avait rapporté bien davantage. Et riche maintenant, et heureux, il repart en direction de son village. Le voilà qui rencontre tout un groupe de colporteurs, des marchands ambulants qui vont de village en village avec leurs mules chargées de marchandises et qui font commerce de tapis, d'étoffes, de bijoux... Quand Yanis se rend compte que ces marchands vont en direction de son village, il leur demande s'il peut les accompagner. les colporteurs se déclarent d'accord et la petite troupe s'enrichit de Yanis. Et on avance en direction du village de Yanis. Et voilà qu'un peu plus loin, le cortège arrive à la hauteur d'une auberge qui se trouve à l'écart de la route et les marchands décident de s'y arrêter, d'aller boire et manger un coup à l'auberge. Yanis s'apprête à les accompagner quand il se souvient du deuxième conseil de son maître. « Ne t'écarte jamais de la route où tu chemines. » Et il décide de suivre ce deuxième conseil. Et il dit au marchand, « Écoutez, je ne vais pas vous accompagner. Je vais rester là, au bord de la route, avec les mules. Vous, vous boirez un coup à ma santé, d'accord? Et vous mangerez aussi à ma santé, hein? Bon appétit, les gars !» Et voilà les marchands qui se dirigent vers l'auberge, qui commandent à boire et à manger. Et à cet instant, se produit un phénomène fréquent dans la région, un séisme. La terre se met à trembler et elle tremble si fort que l'auberge, qui n'était pas bien solide, s'écroule, écrasant et tuant tous les marchands et l'aubergiste. Yanis a eu très peur du tremblement de terre. Mais quand il se rend compte que tout le monde est mort à l'intérieur de l'auberge et que lui, il est le seul survivant, il se dit que le deuxième conseil de son maître lui a sauvé la vie. Et puisqu'il est là, avec ses mules et les marchandises qui n'appartiennent plus à personne, enfin plus à personne qui soit en vie en tout cas, il se dit que tout cela lui revient de droit. Et il repart, encore plus riche qu'avant et très heureux. Le voilà qui n'est plus très éloigné de son village et il prépare tous ces mots qu'il va dire à son épouse, tous ces mots d'amour pour lui dire combien il lui a manqué et combien il a pensé fort à elle pendant ces 10 années d'absence. Et tous ces mots aussi par lesquels il va décrire le jardin extraordinaire qu'il avait créé là-bas dans la ville étrangère. Quand il arrive devant sa maison, c'est le soir. Sa femme doit être à l'intérieur parce qu'on voit de la lumière à travers la fenêtre. Il gravit les marches de l'escalier qui mène à la porte et il s'apprête à faire irruption dans la maison quand un scrupule l'arrête. Après une si longue absence, on ne peut pas comme ça entrer chez soi. Il risque d'épouvanter son épouse, d'autant plus qu'il a quelque peu changé tout de même. Alors il décide de frapper à la porte de sa propre maison. Il ne s'est pas trompé, sa femme est bien à l'intérieur. Et la voilà qui ouvre la porte et qui demande « Qui êtes-vous, monsieur? Que voulez-vous ?» Ça alors, Yanis ne s'y attendait pas du tout. Sa femme ne le reconnaît pas. Oui, c'est vrai qu'il a changé. C'est vrai que quand il est parti, il avait une belle chevelure noire et dense qui maintenant a cédé le pas à une coiffure blanche, clairsemée. C'est vrai que son corps n'est plus aussi svelte qu'avant. Son ventre s'est arrondi, son dos s'est courbé. Mais tout de même, sa propre épouse, il est tellement surpris le pauvre Yanis que tous ces mots qu'il avait préparés sont restés coincés dans sa gorge. Et tout ce qu'il a trouvé à balbutier, c'est « Je suis là avec mes mules et j'aimerais passer la nuit ici. » Ce à quoi sa femme répond que si le voyageur inconnu avait exprimé le désir de dormir à l'intérieur de la maison, bien entendu, elle aurait refusé. Mais si le voyageur veut bien se contenter de la cour pour y passer la nuit avec ses bêtes, elle n'y voit pas d'inconvénient. Alors Yanis s'installe dans la cour pour y passer la nuit avec ses bêtes, tandis que sa femme est à l'intérieur de la maison. Elle est au chaud, lui au froid. Et il s'en veut terriblement de ne pas avoir su trouver les mots. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit « C'est moi, Yanis, ton mari ?» Il est tellement en colère contre lui qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il fait noir maintenant, bien noir, et pourtant, tout à coup, il voit une ombre qui vient de l'extérieur. C'est un homme qui traverse la cour, qui ouvre la porte de sa maison, qui entre chez lui et qui referme la porte. Alors Yanis se dit, voilà pourquoi elle ne m'a pas reconnu. Elle s'est remariée maintenant. Elle a un nouvel homme dans sa vie. Et moi, elle m'a complètement effacée de sa mémoire. Je vais aller les tuer tous les deux. parmi les marchandises qu'il a là, les tapis, les étoffes, il y a des armes aussi. Alors, il s'empare d'un fusil et se dirige vers la porte pour tuer sa femme et son nouveau mari. Mais au moment où il va pousser la porte, il repense au troisième conseil de son maître. La colère du soir garde-la pour le lendemain. Et il décide, malgré sa rage qui est immense, d'écouter ce conseil. Il repose le fusil parmi les marchandises. Il essaye de dormir dans la cour au milieu de ses mules, mais impossible de trouver le sommeil. C'est la rage qui lui a tenu compagnie pendant toute la nuit. Ça a été la pire nuit de son existence. Et quand au matin, les premières lueurs de l'aube sont apparues, les bêtes ont réclamé à boire et à manger. Yanis leur a donné de l'eau, de l'orge. Et là-dessus, la porte de la maison s'est ouverte. Et l'homme qu'il avait vu entrer chez lui la veille au soir est apparu dans l'encadrement de la porte. L'homme s'apprêtait à traverser la cour. Quand au dernier moment, il s'est ravisé, s'est tourné vers l'intérieur de sa maison et il a crié « Maman, je m'en vais ». Je te ferai porter des haricots cet après-midi pour le repas de ce soir. Ça alors, cet homme-là, ce grand gaillard, c'est son fils. 10 ans plus tôt, il a quitté un petit bonhomme pas plus haut que 3 pommes, et voilà que l'autre, maintenant, le dépasse d'une tête. Alors les mots sont revenus, et Yanis a crié, « Ma femme, mon fils, c'est moi, Yanis, je suis revenu !» Ces trois-là se sont enlacés, et leur étreinte a été longue. À partir de ce jour, Yanis, sa femme et leur enfant ont vécu dans l'amour, dans le partage et dans l'opulence, grâce à tous ces biens que Yanis avait rapportés de l'étranger et dont il a su faire profiter tout le village. Et comme on dit en Grèce à la fin des contes, « Zis anaftikala, kemis kalitera », ils vécurent heureux et nous ici plus heureux encore.
Σπάθες και κανόνια κατεβήκανε μια μέρα στο λιτό χώρο πιο πέρα παραδίδι, παραδίδι το βουκί και το ρεβίδι εβοήθησε και εσύ να γένει όλη γη σ' αγαπημένη βοήθησε και εσύ να γένει όλη γη σ' αγαπημένη παραδίδι, παραδίδι το βουκί και το ρεβίδι εβοήθησε και εσύ να γένει όλη γη σ' αγαπημένη. Στην ειρήνη μπερδεμένη δώσε κλώτσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει Αχνιέοι και μανιάτες αγκαλιά στήθια και πλάτες κάνουν έρωτα σαν πρώτα στην πετέλη στον ευρώτα